Bienvenue sur le podcast de Positive Workplace, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute!
Bienvenue sur ce nouvel épisode de Positive Workplace, le label RSE Made in France. Commençons avec un chiffre qui donne le tournis. 80% des internautes sont des cyber-acheteurs en France, plus de 42 millions. Si c'est bien la crise sanitaire qui a accéléré le mouvement, le e-commerce est un secteur qui pourtant n'est pas prêt d'arrêter de se développer. Au premier trimestre 2022, le e-commerce, produits et services, a enregistré une croissance de presque 12% par rapport au premier trimestre 2021 et atteint 32,5 milliards d'euros. Mais au-delà de l'acte d'achat, c'est toute une série de nouvelles tendances qui traduisent l'envie chez les Français de consommer autrement. Parmi elles figure notamment le marché de la seconde main sur Internet. Chez certains, c'est vérifier si le produit est disponible en seconde main est même devenu un réflexe avant l'achat d'un produit neuf. Ils sont en effet 50% à acheter en ligne des produits reconditionnés ou de seconde main en 2021. 80% d'entre eux l'ont fait pour faire des économies et 51% pour accéder à des produits de marque qui ne pourraient pas s'offrir à l'état neuf. Les attentes en termes de RSE sont également en progression et mobilisent désormais 31% des cyberacheteurs. Dans ce domaine, une très grande majorité considère que les enseignes ont amélioré la gestion des emballages, diminution de la quantité d'emballages réutilisables, etc. Dans le B2B, c'est même un acheteur sur deux qui déclare avoir intégré ou a l'intention d'intégrer en 2022 les critères RSE dans la politique achat de l'entreprise. Dans le même registre, le Made in France est un critère d'achat pour les deux tiers d'entre eux de ces acheteurs. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Caroline Bordet-Lelanne, qui est responsable RSE au sein de Cdiscount. Caroline, je vous laisse vous présenter succinctement.
Oui, bonjour, mais je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Comme tu le disais, je suis en charge de la direction RSE chez Cdiscount et l'ensemble de ses filiales. Et donc, je dirige et je contribue à sa mise en œuvre opérationnelle, la feuille de route de l'entreprise et de l'ensemble de ses filiales. Octopia sur la marketplace, Clogistique sur la logistique, Ctech pour la partie IT et puis Cdiscount.com que vous connaissez tous bien.
Merci. On connaît Cdiscount par ses activités et ses produits. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment vous êtes organisé dans cette structure? Quels sont les types de produits qui sont vendus? Et finalement, quels sont les principaux enjeux aussi auxquels votre activité fait face?
Oui, je vais commencer peut-être par quelques grands chiffres clés pour un petit peu situer l'activité. Aujourd'hui, Cdiscount, c'est un peu plus de 4 milliards de volume d'affaires, avec le site cdiscount.com qui réunit à la fois une offre qui est vendue et expédiée par Cdiscount, et puis une offre sur la marketplace qui s'est grandement développée depuis la création de la marketplace en 2011. On a aujourd'hui à peu près 26 millions de visiteurs uniques par mois, 10 millions de clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on touche la plupart des foyers français. On a aussi ce rôle d'une certaine façon de média, puisqu'on vient finalement proposer aux gens dans leur quotidien l'ensemble des biens et services, que ce soit sur la maison, sur le high-tech, sur l'électroménager, mais aussi des services comme le voyage ou la billetterie, etc. Donc, on vient répondre aux besoins du quotidien des Français et on est en connexion très forte avec les Français dans leur quotidien. Et le dernier chiffre que je voudrais citer, c'est le nombre de colis qu'on expédie chaque année, là encore pour donner une idée des volumétries et des enjeux qu'on a à traiter. Donc, on expédie à peu près 24 millions de colis aujourd'hui par an. Dans nos grands enjeux, je vais les répartir en trois grandes catégories. D'abord, il y a évidemment les sujets du carbone. Les deux postes les plus importants pour notre empreinte carbone, c'est d'une part l'offre, donc les produits et les services qu'on vend, et d'autre part la logistique. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, je pourrais développer un peu les grandes actions qui aujourd'hui sont à notre feuille de route. Notre deuxième grand sujet, c'est l'impact sociétal qu'on va avoir. Comment, en tant que plateforme numérique, on fait en sorte que le numérique soit quelque chose de positif, donc à la fois les sujets de soutien à l'économie locale, mais aussi d'inclusion numérique, de mixité au sein de la tech. Donc, ça va faire partie des grands sujets qu'on traite, mais aussi sous l'angle éthique des affaires. Comment on assure que notre chaîne de valeur a des pratiques éthiques? Comment on protège le consommateur, notamment sur le sujet de la protection des données personnelles? Et puis le troisième grand type d'enjeu, c'est évidemment les enjeux sociaux, puisqu'on est dans un secteur qui finalement est assez récent, qui se développe très vite. Donc on forme les talents d'aujourd'hui et de demain sur ces métiers du numérique, sur lesquels il y a une très forte tension et dans lesquels apparaissent de nouveaux métiers. Donc voilà, c'est vraiment un champ des possibles qui est inégalé et qu'on a la chance de pouvoir explorer au quotidien.
Vous parliez à l'instant de principaux enjeux. Est-ce qu'on peut faire un petit focus, si c'est possible, sur la partie environnementale? On parlait du carbone, peut-être aussi des emballages. Quelles aujourd'hui ont été les grandes idées ou les grands chantiers qui ont été menés peut-être sur les dernières années et qui sont prévus sur les prochaines années sur ce sujet-là, plus particulièrement? Il y a énormément d'attentes, hein, des
Oui, tout à
consommateurs
fait.
sur ces sujets.
Oui, tout à fait. Alors, sur le sujet de l'offre, comme j'indiquais, donc l'offre, ça, c'est la partie de notre empreinte carbone la plus conséquente aujourd'hui. Déjà, le premier point, c'est de mesurer cette empreinte carbone. Et donc, pour le faire, on le fait évidemment avec les méthodologies bilan carbone de l'ADEME et on le fait sur la totalité de notre activité, donc que ce soit pour Cdiscount et ses filiales. Et on considère 100% du scope 1, 2, 3. Ce qui est important à préciser parce que ce n'est pas forcément aujourd'hui la pratique du marché. Or, c'est indispensable pour nous pour avoir un vrai pilotage de notre empreinte
Et vous
et
l'avez fait en
pouvoir
interne?
prioriser les actions.
Vous l'avez fait en
Alors,
interne ou vous êtes passé par un prestataire pour cela?
on l'a fait avec un prestataire il y a 3 ans auquel on avait demandé de nous fournir un outil qui puisse être réutilisable. Et donc, l'idée, c'est d'alterner finalement, de pouvoir avoir un outil en interne qu'on va réutiliser, puis régulièrement de venir le faire évoluer en fonction des nouveautés méthodologiques, par exemple, qu'on va constater, notamment sur le sujet du numérique où beaucoup de choses sont aujourd'hui en train d'être mises en place et on participe par ailleurs à des travaux sur ces sujets-là et aussi sur, par exemple, l'empreinte carbone des produits où on le sait. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour avoir des méthodologies de mesure les plus fines possibles. Et donc cet exercice, il est réalisé tous les ans au niveau de l'ensemble de Cdiscount et ses filiales. Et donc ça, c'est vraiment le premier point de départ. Et ensuite, on définit donc des actions en fonction du poids des différentes activités qu'on va avoir. Et sur le sujet de l'offre, on a depuis 2018 très fortement investi le sujet de la seconde vie que vous évoquiez tout à l'heure. En fait, historiquement, chez Cdiscount, on avait une culture sur le réemploi qui était en fait en interne dans nos entrepôts. On avait des retours de produits qu'on a décidé il y a très longtemps d'utiliser de la façon la plus intelligente possible. Et donc, on a mis en place des partenariats avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire comme Envie, par exemple, et des associations locales sur les différents entrepôts qu'on a. Donc, on a 3 bassins d'entrepôts en région bordelaise, parisienne et stéphanoise. Et donc, on a mis en place des partenariats pour donner une seconde vie à ces produits. Et
Et
puis, on
Envie,
a
par
décidé,
exemple,
de l'ouvrir.
qu'est-ce que fait Envie, justement, pour y en préciser un petit peu?
Alors là, par exemple, on va leur confier des produits électroniques. Et en fait, donc, cette entreprise de l'ESS va récupérer les produits, les réparer et les remettre en vente dans des boutiques solidaires, en fait. Et donc, ça permet à la fois d'avoir un impact environnemental et sociétal parce qu'on vient aider des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi à acquérir des compétences. Donc, il y a une vraie dynamique et c'est globalement quelque chose qui est très important, quels que soient les sujets qu'on va traiter. On est bien dans la logique de développement durable où on va tenir compte à la fois de l'environnement, de l'homme et évidemment de l'économie. Donc, voilà. Et cette logique, on a décidé de l'accélérer et de venir mettre de plus en plus en avant cette offre de seconde main. Parce qu'on le faisait déjà finalement, quand des produits en retour arrivaient dans nos entrepôts, on les qualifie et si on pouvait les revendre en occasion, on le faisait. Et puis, le reconditionné s'est développé petit à petit. Et on a vu qu'il y avait une appétence, mais qu'il y avait aussi certains freins qui venaient limiter le développement de cette offre. Par exemple, des sujets sur la provenance des produits, sur les process qualité qui étaient suivis. Voilà, donc toutes ces questions-là sur lesquelles il fallait apporter du contenu, de l'information au consommateur. Et ça, c'est vraiment un driver fort pour nous, c'est l'information du consommateur en toute transparence, parce que les sujets qu'on traite au quotidien sont des sujets complexes et que c'est indispensable si on veut pouvoir vraiment mobiliser, en fait, d'établir ce lien de confiance et d'informer, en fait, le consommateur. Et donc, on a constitué donc, cette offre avec une mise en avant sur le site, avec un onglet dédié, avec des opérations commerciales dédiées, avec une présence dans tous les grands temps forts commerciaux pour vraiment l'inscrire comme un axe très, très fort de développement. Et aujourd'hui, par exemple, on a un téléphone sur quatre qui est vendu reconditionné, un ordinateur sur 10. Et c'est
Un
vrai
sur
qu'on parle
quatre.
beaucoup du technique, ouais, 1 sur 4. Donc, on est très content et ce n'est que le début, bien sûr. Et on travaille pour développer cette offre finalement sur tous nos univers. Donc, par exemple, on a lancé une offre sur la puériculture il y a quelques mois avec une start-up qui s'est positionnée sur ce créneau. Et c'est vraiment l'idée de venir développer ce secteur pour deux raisons principales. L'empreinte carbone, évidemment, parce que l'ADEME nous a fourni il y a quelque temps une étude très intéressante qui nous a permis d'avoir une quantification de l'impact carbone évité avec l'achat de produits reconditionnés. Et puis aussi parce que ça permet de soutenir la création d'une filière de la seconde vie en France, donc des emplois qualifiés, non délocalisables. Et donc là, on est dans l'aspect sociétal. Donc voilà un premier chantier. Et puis on a fait aussi beaucoup de choses sur le soutien à l'économie française avec un programme dédié au Made in France. Qu'on a lancé, alors vous l'évoquiez, c'est une tendance assez récente dans la consommation qu'on observe. On a démarré notre travail en amont de cette évolution et on est ravis d'avoir peut-être contribué à l'accélérer. Et l'idée, en fait, c'était aujourd'hui, pareil, de pouvoir venir amener un vrai impact. Donc, on a voulu poser un cadre exigeant. Et nous, le Made in France qui est proposé sur cdiscount.com, c'est un Made in France où on a au moins 50% du prix de revient unitaire qui est acquis en France. Et donc, ça veut dire qu'on a une vraie contribution sur le territoire, un vrai soutien aux entreprises, aux hommes et aux femmes qui sont engagés dans cette démarche. Et donc, on a décidé de les accompagner avec, d'une part, des offres tarifaires et surtout beaucoup de visibilité. Donc, on a créé un onglet rien que pour le Made in France et de la même manière, on l'intègre complètement dans nos taux forts commerciaux et on crée des temps dédiés à cette offre-là qui, elle aussi, se développe très, très fortement depuis 3 ans maintenant.
Donc, le reconditionner au niveau des appareils électroniques, au niveau de la puériculture, est-ce qu'il y a aussi d'autres produits ou d'autres services, peut-être, mais plutôt des produits qui seraient sujets à ça et qu'on ne penserait pas à la seconde main? Est-ce que vous avez des idées comme ça en tête qui pourraient revenir?
Alors, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être explorées aujourd'hui, donc je ne révélerai pas les futures actualités. Mais oui, ce marché de la seconde vie, globalement, est très intéressant. Et surtout, on voit qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans les attentes des consommateurs. Le driver prix est très important, c'est certain. Mais on voit de plus en plus que le sujet de l'impact environnemental devient la troisième raison, par exemple, de faire ce choix et que ça monte petit à petit. Donc, on voit vraiment qu'il y a une sensibilisation du consommateur sur ce sujet-là. Donc, c'est très positif pour les défis colossaux qu'on a à relever et qui deviennent de plus en plus concrets chaque jour.
Sur la partie un peu plus sociale, peut-être qui va concerner l'intérieur de l'entreprise, finalement, c'est Cdiscount, on connaît l'entreprise par nos achats qu'on peut faire sur Internet, mais on ne connaît pas forcément de l'intérieur, on ne sait pas forcément que c'est une entreprise française, basée principalement à Bordeaux. Si vous pouvez nous en parler un peu plus, combien vous êtes dans l'entreprise, comment vous travaillez aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous avez pu mettre en place aussi en interne. Révéler un petit peu l'envers du décor de ce qu'on peut voir sur la plateforme.
Oui, alors on est aujourd'hui, on est à peu près 2500 collaborateurs, donc avec, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui des filiales qui ont été créées en 2019 pour Clogistics et en 2021 pour Octopia et CTech. L'idée, c'est vraiment Cdiscount et ses filiales, c'est vraiment un ensemble d'experts du secteur du numérique. On a des équipes sur l'ensemble de nos sujets qui sont vraiment avec un niveau de compétence et d'expertise qui est hors du commun. On a par exemple plus d'une quarantaine de data scientists au sein de Cdiscount, ce qui est en France en fait est assez unique quand on compare sur le marché. Et donc il y a à la fois cette très forte compétence sur tout ce qui va être commerce, animation commerciale, sélection des produits, tendances, etc. Je pense par exemple aux équipes de Cdiscount Maison qui font un travail fabuleux sur les styles et les tendances qui sont proposées aux consommateurs, donc avec des équipes qui sont extrêmement passionnées de leur sujet. Et puis, c'est aussi une plateforme technologique extrêmement innovante. Sur la logistique aussi, on a des équipes qui sont vraiment à la pointe du secteur. Donc, voilà, ouais, c'est vraiment un réservoir de talents avec de nombreux métiers qui se complètent et qui vraiment incarnent la totalité des enjeux du e-commerce. Et comme vous le disiez, Cdiscount, c'est une entreprise française qui existe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc, le siège social est à Bordeaux et les entrepôts en région bordelaise, stéphanoise et parisienne. Et on est le leader français aujourd'hui du e-commerce. On est une entreprise avec des collaborateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et très impliqués dans son écosystème, qui cherche à pousser justement une vision française-européenne de ce que doit être le e-commerce, de ce que peut être le e-commerce. Et on est convaincu qu'on peut avoir un modèle alternatif où justement les enjeux environnementaux et sociétaux rejoignent les enjeux économiques et donc qu'on peut bâtir une proposition alternative. Et c'est vraiment ça ce qui va lier au quotidien les collaborateurs, cette vision avec voilà, cette capacité à innover. Et entre nous, on a un des piliers de la marque employeur qui est la Silicon Valley du bassin d'Arcachon. Voilà, ça témoigne un peu de l'état d'esprit. Et on a des équipes qui osent tester, qui ont plein d'idées, qui sont très tournées vers le concret, vers l'action. On a un peu gardé cet ADN, le test and learn, qu'ont beaucoup les startups, ouais, d'être très ouvert, très dynamique. Ça nécessite beaucoup d'énergie. C'est une très bonne chose quand on est dans un secteur où ça bouge autant et où il y a autant d'enjeux à relever.
Alors justement, vous disiez que ça bouge autant. Je suis étonné que vous n'ayez pas encore abordé la notion de packaging. Il me semble que pour vous accompagner depuis quelques mois maintenant, vous avez innové dans ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. Il y a un très, très gros travail côté logistique, évidemment. Alors, je pourrais vous parler aussi du transport, mais on va se concentrer sur l'emballage déjà. L'emballage, en fait, on a une vraie logique. Comme je disais, on a 24 millions à peu près de colis expédiés chaque année et on a sur le site 100 millions d'offres. Ça veut dire une très grosse diversité. Alors évidemment, sur ces 100 millions d'offres, certains produits sont expédiés directement par les vendeurs de notre marketplace, mais beaucoup sont aussi stockés dans nos entrepôts. Et donc, on a un travail qui a été fait pour se dire comment on peut choisir des emballages les moins impactants possibles. Donc, on a des cartons qui sont 100% labellisés FSC. On est passé sur des encres végétales, des calages craft, voilà, toutes ces choses-là pour que les emballages soient les plus durables possibles. Et puis surtout, on s'est dit après, mais comment on fait en sorte de les éviter? Parce que finalement, bah, l'emballage qui a le moins d'impact, c'est celui qui n'existe pas. Et donc, on a lancé un travail, une réflexion. Justement, on a voulu impliquer le consommateur. Donc, on a lancé le programme de sans suremballage. Où en fait, nos équipes logistiques, quand elles reçoivent les produits, auditent les produits, vont regarder par exemple si l'emballage initial du produit est suffisamment résistant, s'il n'y a pas de parties qui peuvent s'ouvrir facilement, si la présence d'une marque ne veut pas générer un risque de fraude particulier. Et donc, une fois qu'on a fait cet audit-là, eh bien, on rend éligible des références à notre programme et le client, quand il va ajouter cette référence dans son panier, on vient lui dire « ce produit ne sera pas suremballé ». Et on lui laisse la possibilité de dire « si, je veux un emballage » parce qu'il peut avoir une concierge curieuse, par exemple, et donc voilà, vouloir un emballage, ça arrive et c'est tout à fait normal. Et dans ce cas-là, quand le client dit « oui, je veux un emballage », on lui développe un petit texte un peu plus riche et on lui dit « mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous en avez besoin parce que bah, ça a un impact, etc. et donc il faut agir ». Donc on veut qu'il y ait un vrai geste conscient du consommateur de dire « oui, j'en ai besoin ». Pour que finalement, cette réflexion de « est-ce que j'en ai besoin, oui ou non ?», ça devienne finalement un réflexe, et que ce soit chez nous ou n'importe où finalement, un réflexe vraiment de consommation. Et donc ça, on a décidé voilà, de pousser ça par défaut pour vraiment inverser les logiques. Et aujourd'hui, c'est une superbe réussite parce qu'on a 98% des gens qui conservent cette option et que rien qu'avec ce programme, on a évité 500 000 emballages l'année dernière. Et on a d'autres actions qui sont menées en entrepôt, par exemple pour regrouper les colis, quand on a plusieurs commandes à quelques heures d'intervalle ou quand on a une commande auprès de Cdiscount et d'un vendeur marketplace qui stocke aussi dans nos entrepôts. Là aussi, on économise 800 000 emballages par an. Donc en fait, on est déjà à 1,3 million d'emballages évités. Donc on arrive tout de suite à des grosses échelles. Et puis, ben, quand il y a vraiment besoin d'un emballage aussi sur d'autres produits, on a testé et lancé de façon industrielle un partenariat sur l'emballage réutilisable avec une startup qui s'appelle Ipli. Et donc là, c'est sur des produits, plutôt des produits mous, on va dire. On a en fait des pochettes qui permettent au client, quand il va le recevoir, de renvoyer la pochette et elle va être réinjectée derrière dans un circuit e-commerce. Et ça, alors, c'est rigolo parce que quand on a lancé ce projet, on nous a dit « oui, mais ça fait des kilomètres en plus. Oui, mais du coup, c'est un emballage en plastique, donc c'est moins bien que le carton. » Et en fait, ça permet de montrer justement qu'il y a des idées, un peu des préjugés qu'on va avoir dans nos domaines. Et en fait, il y a des ACV, des analyses du cycle de vie donc, qui ont été faites et qui sont des outils d'aide à la décision pour nous, pour justement choisir les bonnes solutions. Et qui montre que dès le deuxième usage, dès la deuxième réutilisation, bah, ce produit-là est mieux disant qu'un carton parce qu'on évite l'extraction de matière. Donc voilà, ça permet d'illustrer cette complexité de nos sujets. Et là encore, on a été dans une logique où on dit aux clients, bah, en fait, si tu les réutilises une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, cinquante fois, voilà ce que ça fait. Parce que la startup IPLI, finalement, sa solution, elle peut être utilisée jusqu'à 100 fois. Mais 100 fois, c'est une grosse marche et ça paraît inaccessible. Et ce qui est important, c'est vraiment d'embarquer tout le monde et donc de dire au consommateur, bah, toi, voilà, parce que toi, tu vas faire ça, voilà ce qu'on va faire ensemble. Voilà, donc toujours cette dynamique de fédérer l'écosystème.
C'est passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. mais j'aimerais qu'on prenne un peu de recul aujourd'hui par rapport à cette activité du e-commerce. Quand on voit les volumes qui sont mis à l'offre, on parlait de 100 millions de références, 22 millions livrés chaque année. Quelles sont aujourd'hui les tendances que vous observez dans votre secteur ?
Alors déjà, je dirais qu'il y a quand même une très forte mobilisation du secteur. On l'a vu par exemple sur les sujets du transport. L'année dernière, il y a une charte qui a été mise en place au niveau de la FEVAD qui réunit les acteurs du e-commerce pour une logistique plus responsable et qui vient positionner des actions sur les sujets du transport, de l'emballage et de l'information du consommateur. Donc, c'est une charte d'engagement volontaire qui a été signée par un premier lot d'entreprises dont Cdiscount était membre, évidemment, dès le début, et puis qui a été élargie avec un second cercle. Et ça montre vraiment qu'il y a une communication, une mobilisation sectorielle. C'est la même chose, je trouve, on le voit beaucoup sur les sujets du transport. Il y a aujourd'hui une capacité à travailler entre des petites startups innovantes, des transporteurs majeurs en France, des chargeurs.
Je peux vous parler.
Voilà. et cet écosystème se mobilise autour de projets concrets et avec une exigence. Parce que, par exemple, sur le sujet de l'emballage réutilisable, ce sont des choses nouvelles qui arrivent. Et donc, comme je disais, on cherche à faire en sorte de garantir un véritable impact positif. Donc, il y a vraiment une accélération, je trouve, dans notre secteur. Et ce qui aujourd'hui reste un gros challenge, mais qui est aussi en train de changer, je pense, c'est la perception que peuvent avoir les consommateurs. Aujourd'hui, on le voit dans les baromètres annuels de la consommation plus responsable, on voit que petit à petit, les intentions d'achat augmentent, l'appétence pour des produits plus responsables sont de plus en plus fortes dans les déclarations, en tout cas d'intention. Mais pour autant, même si ces offres sur le reconditionné, le Made in France chez nous ont vécu de très belles croissances, il y a encore un décalage dans le passage à l'acte. Et je pense que ça, c'est finalement plus global. De façon générale, il me semble que dans la société, ces sujets, surtout celui du dérèglement climatique, est de plus en plus présent sur la scène. Il y a un partage du constat et c'est le passage à l'action aujourd'hui et à l'action pertinente qui est l'enjeu d'aujourd'hui. Si l'enjeu est énorme, je suis aussi très positive parce que beaucoup de solutions arrivent et beaucoup de personnes, d'entreprises, d'associations, de collectivités se mobilisent pour vraiment réussir à constituer de vraies réponses à ces enjeux. Donc, évidemment, la situation nécessite d'accélérer, mais je pense que de très belles choses se mettent en place et que c'est une nécessité, mais c'est aussi une bonne nouvelle.
Super, c'est une note positive, j'ai envie de dire. On arrive à la fin de ce podcast. On aime bien toujours terminer ce podcast par deux questions. La première, c'est est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs ?
Oui, alors le conseil, ce serait de dire les sujets sont complexes, donc ne cédez pas aux préjugés et informez-vous. On traite quand même beaucoup de sujets qui s'appuient sur des faits scientifiques, sur un cadre réglementaire. Et donc, ça me paraît important voilà, d'avoir ça en tête, qu'on parle de sujets complexes et qu'on ne peut pas céder, compte tenu de l'importance de ces enjeux, à des idées faciles. Voilà.
Et pour ouvrir un petit peu les chakras, quelles sources auriez-vous à nous recommander ?
Alors, dans la même idée, voilà, il y a beaucoup sur LinkedIn, par exemple, d'acteurs qui vont partager des rapports, des informations, qui vont chercher à bousculer un peu les lignes. Je pense par exemple à Jean-Marc Giancovici, qui est très, très actif. Ça, c'est indispensable et ça permet de voir l'évolution de l'écosystème. Et la deuxième chose que moi, je regarde beaucoup, c'est aussi tout ce qui se passe dans l'univers de la publicité, dans la façon dont les marques vont commencer à parler de ces sujets-là. Et on voit voilà, qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer et c'est très, très intéressant à suivre, surtout quand on est, comme nous, dans un secteur où on parle au grand public. Donc voilà, ce sont deux sources d'inspiration quotidienne.
Parfait. Merci beaucoup, Caroline, pour ces échanges qui étaient très intéressants. Pour rappel, consommez plutôt proche de chez vous des produits responsables. Et si vous allez faire à distance, choisissez une ancienne française. Merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain podcast.
Merci.